Vous y êtes pour une heure dans le sous-marin tout au fond de l'eau, comme tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h, une heure d'actu qu'elle touche à la politique, comme ces trois dernières semaines, à la vie étudiante ou associative, à l'économie, au sport ou comme ce soir, à la culture. Et pour m'accompagner pendant cette heure au fond de l'eau, mais pas trouble, non, non. Salut Victor.
Bonsoir.
Anne-Marie nous rejoindra et Charlotte et Julien également pour le débrief sportif du week-end. En fin d'émission, vous retrouverez bien sûr l'agenda de votre soirée, présenté ce soir par Marin, notre stagiaire, et la bulle sonore. Tout le monde est à son poste, c'est parti. Et pour commencer la semaine, voilà le billet d'humeur de Victor dont le cœur balance entre politique et cinéma ce soir.
N'allez plus au cinéma voir les derniers films hollywoodiens et allumez votre télé sur les chaînes info. S'il y a quelque temps, je faisais une chronique sur une série politique qui calquait avec justesse la réalité, je ne pensais pas que quelques semaines plus tard, j'en ferais une sur la politique française qui imite parfaitement ses classiques américains. Le recours à l'imaginaire hollywoodien ou historique est une constante de la vie politique. Il suffit de remarquer ces éternelles allusions aux sombres années 30 dès qu'un débat lancé par la droite parlementaire flirte avec l'idée d'identité, de patriotisme ou de société judéo-chrétienne. Et bien après les films sur le Troisième Reich, sur la Gestapo, les SS et les rafles, nous entrons dans une nouvelle ère cinématographique, celle de la mafia. Qui peut nier l'aspect mafioso de ce que vit aujourd'hui l'UMP? Ni même Scorsese, ni même Coppola n'auraient eu l'imagination nécessaire pour en faire un script. Au-delà du fait que cela décrédibilise toute la classe politique, que beaucoup d'entre eux passent pour des amateurs et que cela ferait rire un Stavinsky ou un Sam Rothstein, cela corrobore avec ma vision de la droite de la Ve République. En tant que passionné de l'histoire du RPR et de l'UMP, j'ai toujours lu les biographies de Chirac, de Villepin et de Sarkozy en écoutant les Rolling Stones, car cela collait mieux à l'esprit corsésien que je me faisais de ces hommes. C'est Scorsese, encore, que j'ai eu dans mon esprit lorsque j'ai appris que pour transporter de l'argent africain, de Villepin les stètes cachaient les bifetons dans un tam-tam pour les ramener à l'Elysée. Scorsese, toujours, lorsque Chirac gagna son premier affront avec le suffrage en Corrèze grâce à des mallettes fraîchement apportées par Pasqua. Scorsese, enfin, lorsque je découvris dans une énième biographie que Chirac ramassait les billets qui arrivaient à l'hôtel de ville de Paris en fredonnant la Marseillaise. Un cynisme qui n'aurait pu être joué que par un De Niro, un Ray Liotta ou un Al Pacino. Ainsi, comment voulez-vous que dans cette vision que je porte pour la droite française, je ne trouve pas fantastique cette histoire de surfacture illégale de Copé pour ses copains de Big Malion, ou encore ce pauvre réac de Buisson qui enregistre Sarkozy probablement par peur de finir chômeur en 2012, et enfin, cet ancien président qui use d'une fausse identité téléphonique pour ne pas se faire repérer dans son probable trafic d'influence. Libération a bien raison de titrer « Le Parrain ». Il n'y a pas d'autre référence qui puisse représenter davantage les faits. Fini les années 30, la moustache hitlérienne d'un Chaplin raillant le fascisme, et bonjour les costumes sombres des éminences grises. Des valises remplies de pognon, des malversations et des usurpations d'identité. Sauf que voilà, enfin chez les socialistes, on n'est pas des grands fans de ce genre de film. L'esprit gauche est évidemment plus culturel, plus libertaire, frôlant avec l'érotisme chez DSK. Il y a évidemment deux ou trois contre-exemples, Cahuzac fait palmine dans ce portrait que je brosse. Oui, notre ancien ministre de l'économie est davantage dans un casting pour un film produit par l'UMP. Mais pour le reste, c'est l'héritage de la nouvelle vague qui persiste chez nos amis de la gauche. On reconnaîtrait presque François Hollande et ses muses dans un film de Godard tel que Le Mépris. Nadjad Vallaud-Belkacem dans Une femme est une femme. Valse comme un Pierrot le Fou, et sans jeu de mots, Jean-Marc Ayrault taillé pour un rôle belmondesque, à bout de souffle. C'est malheureusement de cette spontanéité remarquable chez le défunt Rennais que le gouvernement s'inspire. Elle se voit aujourd'hui égratignée par cette affaire Sarkozy. Par conséquent, je recommande vivement à nos décideurs politiques de regarder davantage d'Henri Verneuil pour qu'il fasse résonner cette mélodie en sous-sol, les sous-sols de la stratégie.
Merci Victor, et après cette petite mise en jambe, entrons donc dans le scaphandrier. Bonjour Hélène Rimbaud.
Bonjour.
Vous êtes comédienne et vous faites également partie du syndicat français des artistes et interprètes. En face de vous, Philippe Piau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes metteur en scène et comédien, mais également membre de l'association SAS, Structure Artistes Associés Solidaires, un collectif de 28 structures et individus, acteurs du spectacle vivant, tous basés en Anjou. Et à vos côtés, bonjour, Ronan Pichavant.
Bonjour.
Vous êtes chargé de coordination du festival Chaque Pays, un festival itinérant en milieu rural, et aussi directeur de projet de l'EPCC Anjou Théâtre, et donc aussi du Festival d'Anjou. Ensemble, nous allons donc aborder deux sujets qui touchent le domaine de la culture en ce moment, le régime des intermittents et le budget de la culture.
Voilà ce que l'on pense du projet du MEDEF.
Le régime des annexes 8 et 10, le régime qu'on appelle des intermittents, permet effectivement aux artistes et aux techniciens du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, qui ont par nature des métiers plus précaires que d'autres, de pouvoir bénéficier d'indemnisations du chômage qui soient adaptées à l'extrême précarité de leur métier. C'est pour cela que le gouvernement, qu'avec Michel Sapin, nous l'avons fortement rappelé, le gouvernement est extrêmement attaché au maintien de ces annexes 8 et 10, du principe d'indemnisation spécifique pour des métiers qui sont spécifiques.
Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture, au sujet du statut des intermittents du spectacle, vous avez aussi pu entendre Éric Aubin, secrétaire national de la CGT, déchirant les propositions du MEDEF sur la chaîne parlementaire. Alors, juste avant d'entrer dans la conversation, peut-être un bref topo, un bref rappel des faits. Le 12 février dernier, le MEDEF, le syndicat des patrons, a proposé de supprimer le régime d'indemnisation des intermittents du spectacle. On va tenter d'être un peu pédagogique et vous m'arrêtez si je fais des bourdes, parce que c'est un sujet compliqué. D'abord, rappelez qu'être intermittent, c'est pas un métier, c'est un régime qui touche au métier du spectacle, tant aux techniciens qu'aux artistes. Et pour bénéficier de ce régime, il faut travailler 507 heures sur un délai de 10 mois pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation sur 8 mois. Ça va jusqu'ici ?
Alors, je dirais qu'il faudrait travailler au minimum 507 heures, parce qu'évidemment, le travail, c'est avant tout l'objet que recherche le comédien. Qu'est-ce que c'est un comédien ? Enfin, quand je dis comédien, il s'agit aussi de chanteur, musicien, c'est quelqu'un qui répète et qui joue, et qui est employé par différentes structures, différentes compagnies, groupes de musique, et qui, de ce fait, est en discontinuité de travail, et qui passe beaucoup de temps à rechercher du travail. Et c'est de cette façon, du fait de cette précarité, qu'il peut bénéficier sous certaines conditions d'une indemnisation spécifique qui est liée à ces métiers.
Alors, je ferai un petit complément aussi, c'est qu'on parle du spectacle vivant, mais il faut aussi parler de l'audiovisuel. Voilà, c'est ça,
les deux domaines. En fait, ce que vous reproche le MEDEF, si je peux me permettre, c'est de travailler 507 heures, c'est-à-dire 3 mois et demi de temps plein, et d'être indemnisé 8 mois, alors que les bénéficiaires du régime général touchent un jour d'indemnisation pour un jour travaillé, c'est ça ?
C'est ça, c'est-à-dire que pour bénéficier de ce régime de l'intermittence, on demande au minimum à l'artiste, au technicien du spectacle vivant ou de l'audiovisuel de travailler au moins 507 heures, soit sur 10 mois ou 10 mois et demi.
Oui, mais après, ce qui est difficile, c'est par rapport à ce que dit Hélène. C'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable, et on peut pas juste mettre côte à côte les situations, parce que la façon dont on vit ces métiers-là amène des spécificités qui font qu'effectivement ces 507 heures peuvent paraître extrêmement peu dans certains métiers, mais sont déjà très difficiles à obtenir dans nos métiers. Quand Hélène parle de la précarité, effectivement, il y a énormément de gens qui sont artistes ou techniciens et qui vivent de précarité, qui ne sont même pas indemnisés en tant qu'intermittents du spectacle, même si ils travaillent quand même pas mal, mais pas suffisamment pour avoir ces fameux 507 heures. Vous voyez que c'est quand même pas si simple que ça, parce qu'on passe beaucoup de temps et à rechercher du travail, et à travailler son texte, et à travailler son corps quand on est danseur, ou son instrument quand on est musicien. Et toutes ces petites choses-là, bout à bout, font que ça prend beaucoup de temps, indépendamment du strict temps qui est salarié.
Il y a ce travail qui ne fait pas partie d'un contrat, en fait, qui n'est pas comptabilisé.
Non, le temps, quand on ne travaille pas, on passe beaucoup de temps à chercher du travail. Je pense que c'est aussi difficile que pour une personne qui serait du régime général et qui chercherait un contrat, un CDI par exemple. Nous, on cherche aussi des contrats de travail, mais ça peut être pour une journée. Donc imaginez que 507 heures, ça peut représenter quoi ? 50 journées, 60 journées, enfin tout dépend. Oui. Hein, si on est en représentation, c'est sous forme de cachet, donc c'est soit 8 heures, soit 12 heures selon certaines conditions. On peut travailler en service, donc ce sont des journées de 4 heures ou 8 heures, bref. Imaginons que nous sommes à la recherche de 4, 5, 10, 15, 20 contrats de travail dans l'année.
C'est difficile à obtenir un régime d'intermittent quand on rentre, même quand on y est, en fait, ça se renouvelle tous les ans.
Ah bah évidemment.
C'est jamais acquis. C'est ce qui fait à la fois bon. Il y a une face positive et une face négative. On a la chance de faire les métiers qu'on fait. Pour la plupart d'entre nous, on l'a choisi, donc tant mieux. Mais c'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent passer toute leur carrière à avoir suffisamment de travail pour que ma foi continuer à œuvrer dans ce métier-là et se retrouver avec un grand trou d'un seul coup, quel que soit le moment de leur parcours professionnel. Et puis ça repart ou ça repart pas. C'est extrêmement instable. On peut jamais savoir si l'année d'après ou dans les 2 ans qui vont venir, si on est en tournée, on peut avoir une vue peut-être parfois sur 1 ou 2 ans, mais rarement plus loin, parce que les projets se font rarement à plus long terme que ça, si ce n'est dans quelques cas de figure assez précis. Donc c'est pour ça que s'il y a une grande précarité de ce point de vue-là, et il faut être prêt en rentrant dans ce genre de métier-là à être dans cette fragilité-là qui fait qu'on ne sait pas si ça va continuer comme ça continue, même si on est très installé dans le métier. On a eu souvent le cas de dire oui, mais tel acteur, telle actrice qui passe à la télé, c'est un intermittent du spectacle, pourquoi? Ben oui, parce qu'on peut très bien avoir tourné quelque chose à un moment et être connu parce qu'on est passé sur une télé ou au cinéma, mais pour autant avoir un grand trou dans sa vie professionnelle à ce moment-là, vous voyez. Donc c'est...
Pour prendre un exemple d'un travail sur une année. Je vais prendre mon exemple. Une comédienne s'est engagée par différentes compagnies. D'accord? Enfin, si c'est le cas cette année. Je suis engagée sur 3 spectacles avec 3 équipes différentes. Il y a 2 équipes qui sont nantaises, une équipe qui est du Mans. Donc il y a eu 2 créations la saison dernière qui tournent. Il y a une création qui a été faite il y a 3 ans, qui tourne encore pour la 3e saison, mais qui va s'arrêter. Cette année, à la fin de l'année 2014, deux spectacles vont s'arrêter. Il n'y en a plus qu'un qui tournera. Donc il faut absolument que je puisse me retrouver dans une nouvelle création d'une compagnie. Ce qui veut dire que, n'étant pas attachée non plus à une compagnie spécifiquement, je suis aussi dans le désir du metteur en scène qui voudra bien m'embaucher. Mais pour ça, il faudrait déjà qu'il m'ait vu sur un plateau. Si on ne joue pas, si on n'est pas vu, on a encore moins de chances d'être engagé. Parallèlement à ça, non seulement le comédien, il répète, il joue, mais aussi il peut être amené à faire des lectures publiques, ce qui est un autre aspect de son travail. Cette année, je travaille avec un centre culturel qui m'a demandé un cycle de lectures liées à leur programmation. C'est-à-dire que j'ai fait des lectures sur Garcia Lorca, parce qu'il y avait un spectacle de Garcia Lorca, un spectacle de Daniel Danis, un spectacle sur Shakespeare. Voilà, on peut être aussi amené à avoir d'autres activités qui sont proches de notre métier, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On nous demande très souvent des actions de formation, hein, que ce soit dans les lycées ou conservatoires ou dans des maisons de quartier, etc. Mais ça, c'est un autre aspect. C'est plus tout à fait notre métier, mais c'est ce qu'on appelle l'activité de formation.
Alors, initialement, le MEDEF proposait de supprimer purement et simplement les annexes 8 et 10, donc de la convention d'assurance chômage qui touche à ce régime des intermittents, le tout avec un argument budgétaire qui s'appuie sur la Cour des comptes et qui estime, la Cour des comptes qui estime dans un rapport que le régime des intermittents représenterait 1/3 du déficit de l'assurance chômage, 1 milliard d'euros par an. Vous l'entendez, cet argument-là? Vous répondez quoi en tant qu'aussi mouvement Je marche pour la culture?
Non, en fait, on peut pas l'entendre, mais on va rentrer dans une cuisine de chiffres qui est un peu complexe parce que
ouais, c'est
pareil.
De faire simple quand même pour vulgariser, mais
ouais, c'est ça qui va être difficile là. Non. Ou la responsabilité. Non, c'est que en fait, on compare des choses qui sont pas les mêmes, quoi. Alors, comment expliquer ça?
On pourrait, par exemple, s'il n'y avait pas de régime d'intermittence, c'est-à-dire que tous ces privés d'emploi, tous ces demandeurs d'emploi seraient dans le régime général, on peut supposer. Mmh. Donc s'ils étaient dans le régime général, ils feraient partie de tous ces chômeurs, demandeurs d'emploi. Et la différence serait qu'entre ce qu'on nous annonce 1 milliard de déficit, il n'y en aurait plus que 360 millions.
Voilà, ça, 700
Donc
millions.
C'est autre chose. Mmh. Hein, voilà, c'est difficile de comparer, mais en tout cas, en même temps, l'emploi est le suivant. Il est très difficile d'être engagé à plein temps dans une structure, à part la Comédie Française, qui a une compagnie permanente. Certains metteurs en scène dans des structures institutionnelles ont essayé cette permanence, ou tout du moins engagent des comédiens sur 18 mois, par exemple, pour le temps d'une création, et ce contrat peut être répété encore pendant 18 mois. Mais il est important aussi Et je reviendrai sur le travail de façon permanente. Je trouve que c'est vraiment un travail excellent quand une troupe travaille longtemps ensemble, qui puisse à la fois réaliser des spectacles, mais faire des actions de formation, faire des actions de lecture, enfin qui soit là de façon permanente, ce qui crée un travail artistique très très riche. Et je regrette ce temps-là de ces troupes permanentes qui existaient. Maintenant, alors là, on va peut-être aborder la question du budget de la culture, mais c'est vrai que les employeurs, les structures employeurs n'ont pas suffisamment de budget non plus pour créer cet emploi qui serait nécessaire.
On reviendra sur le budget dans la seconde partie de l'interview. On a beaucoup vu les intermittents puis le monde de la culture justement après cette annonce du MEDEF avec la marche pour la culture. Mais finalement, on se dit, quand on entend Aurélie Filippetti qui défend le régime des intermittents, quand on entend même Laurence Parisot qui dit non, faut pas toucher au régime des intermittents, on se dit que finalement vous n'avez pas grand-chose à craindre de la part du gouvernement et du monde patronal. Sauf que le MEDEF... Le MEDEF est même revenu en fait sur cette déclaration initiale de suppression des annexes 8 et 10.
Alors ça, il faut vraiment attendre le 20 mars pour savoir
à quelle sauce
il décide de manger. Parce qu'on est dans une cuisine qui dépasse largement le système de l'intermittence du spectacle, puisque les partenaires sociaux, donc les syndicats de salariés, les syndicats de patrons, sont réunis entre eux pour parler de l'ensemble de l'assurance chômage de tous les corps de métier qui existent en France et qui touchent de près ou loin à cette assurance chômage.
Donc le régime n'est pas encore sauf.
Non, ben c'est pas parce que le en fait pour l'instant chacun avance ses pions et on a un peu l'impression d'être un pion forcément comme les autres sur l'échiquier. Mais est-ce que c'est vraiment une proposition qu'ils avaient vraiment l'intention de faire, qui paraît complètement irréaliste dans le paysage actuel pour plein de raisons qu'on peut évoquer là et que le MEDEF connaît très bien. Mais où est-ce qu'on c'est une façon de dire ok, si on prend pas ça, alors qu'est-ce qu'on prend? Et il y a toute une négociation qui est sous-marine, pour reprendre le terme de l'émission.
C'est vrai que ce qui est regrettable, c'est que dans cette négociation où des partenaires sociaux, donc à la fois les chambres d'employeurs et les syndicats de salariés négocient, il est regrettable que nos chambres patronales ne fassent pas partie de cette négociation, puisque par exemple le syndicat, le SINAVI ne sont pas membres du MEDEF. Et en ce qui concerne les syndicats de salariés, certains syndicats de salariés sont dans la négociation, mais ne représentent pas le monde du spectacle, parce que très peu d'adhérents ils sont dans ces syndicats.
En fait, on ne sait pas si on sert de monnaie d'échange ou quoi, mais toujours est-il que le danger est vraiment grand quand même. Parce que si personne ne répond à cette provocation-là, pourquoi pas le faire ? Si personne, donc c'est pour ça que la mobilisation a été forte déjà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si ça bouge un petit peu, mais pas trop, on va pouvoir continuer à grignoter, parce que depuis 2003, ça paraît pas grand-chose vu d'un peu loin ce qui s'est passé par rapport à l'intermittence du spectacle, mais ça a entraîné une précarité très très forte. Il y a beaucoup de gens qui ont dû sortir quitter leur métier depuis cette période-là. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant et un petit peu épidermique sur le sujet, parce qu'on sent qui se joue un truc qui pourrait être encore une reculade très forte. Or, ce que dit Hélène est important, c'est-à-dire que les patrons et les salariés du secteur, depuis 2003, eux, se sont réunis dans ce qu'on a appelé un comité de suivi qui était à l'Assemblée nationale, qui regroupait aussi des élus de la République, qui étaient aussi porteurs de l'importance de ces enjeux-là. Et ce comité de suivi a fait des préconisations. Or, ces préconisations, pour l'instant, ne sont pas discutées dans ce cadre-là. Alors qu'il y a des propositions qui feraient en sorte que le système qui a été modifié en 2003 coûterait moins cher et serait mieux réparti.
Ronan Pichavant, je vous vois acquiescer. À l'EPCC en joue théâtre, comment est-ce qu'on a pris cette proposition, cette déclaration du MEDEF en février?
On suit très 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 fortement tous ces annonces, et pour moi effet d'annonce, je rejoins un petit peu Philippe, prudence. En même temps, j'ai un optimisme de nature et je me dis que c'est encore des propos encore une fois pour essayer de négocier de titiller, parce que c'était pas forcément aussi que le régime intermittent, le régime intérimaire aussi, oui, qui voulait tout ce vrai. Donc ça paraissait tellement surréaliste que on prend un peu de recul en disant mais ça n'aboutira jamais à rien. Mais Philippe a raison sur l'aspect, c'est donc rester prudent. Nous, au niveau de l'opération théâtre, on embauche. On a des intermittents. On est à 40 intermittents sur la période du festival. Donc on est pieds et mains liés. On est ensemble, c'est main dans la main. Alors on a une position un peu difficile puisque nous sommes employeurs à une partie donnée sur entre autres le festival Anjou, mais sur d'autres événements, que ce soit sur le château du Plessis-Massé, le festival Très Tôt en Scène, où il y a également des intermittents, des techniciens, des artistes aussi, donc des compagnies qui vont venir jouer. Donc on est profondément liés. On n'est que du soutien. Et d'ailleurs, on est présent aussi lors des manifestations, des soutiens ou des conférences de presse qu'il peut y avoir. C'est pas parce qu'à un moment donné, on est employeur. Moi, je suis dans un régime différent. C'est pour ça que je vous ai évoqué que je laisserai parler les gens qui sont au cœur de ce régime-là. Nous sommes, entre guillemets, employeurs. En tout cas, je travaille en lien avec des personnes qui sont issues du régime intermittent. Moi, je suis, on va dire, privilégié, entre guillemets. Je fais partie des 670 000 personnes qui sont employées par les entreprises culturelles. Mais sous format CDI. Bon, voilà, moi j'ai mon contrat à l'année, j'ai tous les mois. Je travaille en lien avec des artistes, des techniciens, des précaires, et j'ai ma petite sécurité, ce qu'on pourra aussi en développer là-dessus. Sur tous ces gens-là qui sont venus, nous sommes des électrons supplémentaires qui ont été greffés entre l'artiste et le public. Et ça sera un autre débat.
Philippe Piau, vous évoquiez les pistes de réforme. Alors la prochaine négociation, on le redit, c'est le 20 mars, donc c'est dans 3 jours. Les pistes qui pouvaient être évoquées sur cette réforme du régime des intermittents, moi j'en ai noté plusieurs dans les lectures pour préparer l'émission. Par exemple, augmenter le nombre de spectacles vivants labellisés ministère de la Culture, augmenter les cotisations des employeurs en fonction de leur recours au travail intermittent. Vous en pensez quoi de ces pistes qui ont pu être lancées ?
Il y a pas mal de choses qui ont été proposées, mais je sais pas si c'est les... après on peut rentrer dans le détail, mais il y en a une par exemple qui est quand même un petit peu phare, même si elle est un peu technique, mais pour nous elle est importante. C'est que en 2003, lors de la dernière refonte du régime, il a été décidé que les intermittents devraient faire leur fameux 507 heures, non plus en 12 mois sur une année, mais en 10 mois ou 10 mois et demi, selon qu'on soit artiste ou technicien. Et ça paraît pas beaucoup, mais ces 2 mois ou mois et demi de différence ont été ravageurs dans la profession. Donc là, une des propositions principales, c'est de revenir à cette date anniversaire annuelle qui est beaucoup moins contraignante. Vous savez, juste une anecdote, par exemple, des gens qui sont techniciens, il y a toujours, heureusement, mais une grande solidarité entre les gens qui sont techniciens en disant moi j'ai un peu de boulot en ce moment, j'ai suffisamment, est-ce que tu peux me donner un coup de main sur tel truc, voilà. Et les gens du coup se refilent les plans comme ça pour s'embaucher. Enfin, Renan connaît bien ça. Mais j'ai rencontré plusieurs fois des techniciens qui disaient j'ai trop peur de pas faire mes heures, de pas avoir le nombre d'heures, donc je refile plus de boulot. Et du coup, dans les théâtres, on trouve parfois des gens qui sont dans un état de fatigue, mais terrifiant, parce qu'ils viennent d'enchaîner les jours de travail pour être sûr d'avoir des heures. Et pendant ce temps-là, à côté d'eux, il y a un technicien qui est aussi bien formé, aussi expérimenté, calme et mâche tout, mais qui lui a juste cette demi-journée et c'est tout. Et puis, il va pas avoir ses heures. Vous voyez, donc c'est cette espèce de solidarité qui se faisait que là, comme chacun a la trouille, ça met tout le monde dans la trouille. Ce qu'il y avait quand même beaucoup moins avec cette histoire de date anniversaire. Donc, pour l'instant, je retiens surtout cela. Il y en a d'autres, mais...
Hélène Rimbaud.
Oui, il y en a d'autres. Par exemple, avant 2003, et c'est ce qui était très intéressant, ce qui était une chose intéressante pour les gens qui cherchaient effectivement à vivre de leur métier, c'est que certaines années, vous pouviez ne pas réussir à avoir ces 507 heures, mais si vous aviez travaillé dans le régime général, un autre métier, tout ce que vous vouliez, barman, animatrice, peu importe, si vous aviez fait 169 heures du régime général, ça pouvait permettre d'être comptabilisé pour continuer à être indemnisé dans le régime des intermittents. En 2003, on a perdu ça et nous n'avons obtenu que 50 heures possibles qui pouvaient aider à conserver cette indemnisation, ce régime. Mais il s'agit de réaliser 50 heures de formation, uniquement de la formation, il ne s'agit pas d'un autre métier, et que ces heures de formation soient salariées et rémunérées par des structures qui sont reconnues structures de formation. Ce qui veut dire, dans le cas actuel, par exemple sur Angers, qui est structure de formation, il y a le Nouveau Théâtre d'Angers qui dispose de la formation, il y a le Conservatoire, il y a quelques compagnies, mais pas toutes, Et donc c'est un réel problème. Autre problème, c'est que ces 50 heures, si elles sont comptabilisées en heures, elles sont pas comptabilisées quant aux revenus. Donc le taux d'indemnisation est rendu beaucoup plus faible.
On va marquer une petite pause musicale dans ce scaphandrier avec Le Larron, le timide.
Je perdais ma tempérance si vous nagiez dans l'insouciance. Je vous ferais l'amour, oui, là. Je vous ferais l'amour. Si vous n'aviez pas l'air farouche, si je ne craignais pas la blessure, de ce rire qui met sur la touche, de ces regards pires qu'une injure, je vous ferai l'amour. Oui, là, je vous ferai l'amour. Mais je sais bien que je vais rien faire, que je vais rester planté là. Je me sentais l'envergure de ces playboys pleins d'assurance qui draguent les femmes par nature. Je vous ferai l'amour. Oui, là, je vous ferai l'amour. Mais je sais bien que je vais rien faire, que je vais rester planté là. Chez moi, je sais trop bien que je vais rien faire. J'ai déjà rien fait tant de fois. L'amour, c'est bien. L'amour, c'est bien. Trop dur pour moi.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers et on marque une pause dans ce scaphandrier consacré à la culture. On accueille Anne-Marie. Salut Anne-Marie.
Salut.
Notre chroniqueuse éco qui ne va pas du tout nous parler du budget de la culture. Non, pas du tout. Ce soir, tu nous parles de Facebook.
Exactement. On ne présente plus le fameux réseau social Facebook élaboré par le prodigieux Mark Zuckerberg au début des années 2000. D'ailleurs, en février dernier, le site fêtait ses 10 ans. Aujourd'hui, il compte près de 1 milliard d'utilisateurs et est le deuxième site le plus visité après Google.
Alors, il paraît que Facebook, qui est un site gratuit et qui le restera toujours, comme il est écrit sur la page d'accueil, gagne de l'argent. Comment ?
Alors justement, le trafic important sur le site fait qu'il est intéressant d'avoir un encart de pub. Et avec toutes les informations dont dispose le réseau social, la pertinence de son ciblage est très intéressante. Facebook vend des emplacements publicitaires, donc c'est pour des encarts, ce sont les petites pubs que l'on voit sur le côté, mais il doit être prudent pour ne pas saouler ses utilisateurs. Justement, jeudi dernier, Facebook a annoncé vouloir implanter lentement des publicités sous forme de vidéos. Ce sont uniquement des campagnes de haute qualité afin de créer la meilleure expérience possible. Lorsque vous arriverez sur le fil d'actualité de votre Facebook, il y aura des spots liés à vos activités sur le net et informations personnelles. Ils se lanceront mais sans le son qui sera activé que si vous cliquez dessus. Ceci permet d'augmenter le nombre de personnes qui regardent, aiment, partagent ou commentent la vidéo. Donc vous pourrez ignorer, zapper ces vidéos qui seront limitées au nombre de 3 par jour. Ce genre de campagne est 5 fois plus cher que les campagnes de pub traditionnelles. Le prix d'une campagne de spot vidéo sur Facebook pourrait s'élever à 1 million de dollars par jour.
Et ces spots publicitaires ont-ils un bel avenir sur le réseau social qui devient quand même tout à fait ringard chez les jeunes ?
Alors, aux États-Unis, il en est certain. En 2013, le marché de la publicité vidéo sur Internet, toujours aux États-Unis, a augmenté de 43%, soit 4,15 milliards de dollars. Alors, si Facebook arrive à développer des spots sur son site sans faire fuir ses utilisateurs, ce sera le jackpot. On estime qu'en 2016, cette activité s'élèvera à 1 milliard de dollars.
Et qu'est-ce qu'il en est de tous ces jeux sur Facebook ?
C'est un autre moyen pour Facebook de gagner de l'argent. Le site encourage les développeurs extérieurs, comme Apple le fait avec l'iPhone en proposant des applications. Facebook a déjà signé un accord avec Zynga, la société à l'origine du jeu Farmville. Et 30% du produit de ces transactions est reversé au réseau social.
Et sinon, on l'a vu, l'entrée en bourse est assez catastrophique de Facebook. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Faut-il investir dans cette entreprise ? Tiens, si ça nous prend.
Alors, le journaliste Duff McDonald a calculé qu'avec la valorisation de Facebook à 100 milliards de dollars, il faudrait 6 ans pour rentabiliser un investissement. Et ce calcul a été élaboré avec un chiffre d'affaires qui doublerait à chaque année. C'est pourquoi il dit « La seule raison de payer quelque chose approchant la valeur boursière de Facebook et de Twitter serait de supposer que quelqu'un d'encore plus fou que vous vous attend au bout du chemin pour vous acheter vos actions. » Ah oui, la méthode de l'investisseur le plus fou. Et elle est sûre, sauf si vous êtes le fou qui se retrouve avec le sac quand la route prend fin. Et la route, elle va se terminer. En tout cas, si Mark Zuckerberg veut augmenter les bénéfices de son entreprise, il va devoir modifier le fonctionnement de son site. Et cela sans décevoir ses utilisateurs, car il risque de les dégoûter. Si tel est le cas, les utilisateurs pourraient se réfugier chez Google+.
Merci Anne-Marie, on te retrouve donc la semaine prochaine. Tout de suite, on va reprendre le cours de notre conversation avec Hélène Rimbaud, Ronan Pichavant et Philippe Piot autour des problématiques qui touchent le domaine de la culture en ce moment. Et parmi elles, il y a le budget.
Je dis à Bernard Cazeneuve, voilà ce qui a été fait par le ministère de la Culture. C'est, vous l'avez dit, 4% voilà. En 2013, 2% de 2014. La culture, ce n'est pas seulement de la dépense. Ça rapporte à la France puisque ça représente 3,2% du produit intérieur brut.
Aurélie Filippetti.
Vous savez que c'est autant que l'agriculture et les industries agroalimentaires.
C'est pour ça, vous avez des arguments.
Les budgets de la culture n'ont jamais été autant en baisse. Et pourtant, François Hollande avait promis de les sanctuariser. Les conséquences sont dramatiques. Bah, on sait qu'il y a pas mal de compagnies qui se posent la question de continuer à exister. Et puis, il faut voir aussi la difficulté à faire tourner les spectacles dès qu'il y a plus de 3 personnes sur scène. On ne peut plus monter Molière. On ne peut plus monter la création contemporaine avec des musiciens sur scène, il faut forcément des bandes enregistrées.
Vous aurez reconnu Aurélie Filippetti, interviewée par Jean-Jacques Bourdin, le fameux, sur BFM Télé, suivi de Denis Gravouille, secrétaire général CGT Spectacle, au micro de Jérôme Jadot sur France Inter. Alors, le budget 2014 du ministère de la Culture et de la Communication a baissé de 2% par rapport à 2013. Ronan Pichavant, je le disais en introduction, vous êtes directeur de projet à l'EPCC Anjou Théâtre. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans votre travail au quotidien, ces baisses de subventions de l'État ?
Au quotidien, c'est pas forcément perceptible. Le ministère de la Culture, depuis X années, se bat pour augmenter son enveloppe. On annonce moins de 2%. Et à contrario, bizarrement, un nouveau discours qu'on entend du monde politique et économique, c'est « Ah, dis donc, la culture, en fait, ça apporterait. » C'est assez nouveau. Si on revient 10 ans en arrière, absolument, on n'avait jamais entendu ce « c'est à perte, c'est à perte, c'est à perte ». Là, bizarrement, on prend conscience. Alors, c'est lié déjà en 2003. Avignon a été marqué la première fois que les commerçants soutenaient le festival en disant « Mais attendez, faut pas qu'ils partent, faut qu'ils restent. » Donc, bizarrement, c'est rentré un petit peu dans les mœurs en disant « Mais tiens, c'est bizarre, ça rapporte. » Je prends un autre exemple qui est très intéressant, c'est le festival Premier Plan, quand il y a une affiche dans vos locaux. Le festival Premier Plan, il y a 3 ans, galérait aussi pour boucler son budget et s'est dit « Tiens, je vais faire une enquête avec la CCI et avec des étudiants. C'est une enquête assez poussée sur une année, le comportement d'un festivalier. Tous les tombés, directs, indirects, alors on est dans le truc économique, hein, on parle du budget, donc on parle d'argent, ils ont un peu vraiment scruté le comportement d'un festivalier. Et ils se sont rendus compte que tout ce qui était en économie indirecte sur un événement, un festival, qu'il soit subventionné, aidé par des partenaires privés, l'impact que le festivalier, se comportant sur un festival, apporte énormément sur la ville, sur les alentours, alors ça va sur le monde de la restauration, sur l'hôtel, etc. C'est quelque chose de concret et qui en plus a permis, entre autres, au coordinateur du festival Premier Plan de bénéficier et de justifier aussi pourquoi, à un moment donné, il y avait tel et tel investissement ou tel besoin d'enveloppe complémentaire de subvention publique. Parce que toujours, quand on dit subvention publique, oh là là, attention, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent du contribuable? Là, il pouvait le justifier en disant, regardez indirectement ce que ça réinjecte. Alors pour entre autres le PCC Anjou Théâtre, je vous dis sur le point de vue national, le festival Anjou n'a jamais été soutenu par le ministère de la Culture directement. Il est aidé indirectement par des fonctions, par des institutions publiques comme la région à hauteur de 3% et le département de Maine-et-Loire à hauteur de 45%. Le reste, ce sont des fonds propres, ce sont donc les spectateurs. Donc c'est presque double effet puisqu'il y a les subventions liées au Conseil Général, mais également après le spectateur lui-même qui va prendre sa place et un nouveau paysage. Je parle entre autres pour les festivals, que ce soit de théâtre ou de musique, l'impact énormément de plus en plus des entreprises privées, enfin du privé. Le privé a pris une place énorme. Je parle juste dans la partie tout ce qui est événementiel, tout ce qui est festival.
C'est quoi les conséquences, justement, le fait que le privé prenne de plus en plus de place? Ça a une conséquence sur le choix, sur...
Un premier point, c'est le désengagement de l'État et des collectivités. Alors, l'État a pu se désengager sur certains aspects, sur certains dossiers, en les transmettant aux collectivités locales. Donc, pourquoi pas? Les collectivités locales qui, aussi, de nouveau, se sont aussi un petit peu, ont mis un peu de côté et se sont rejoints, ont rebasculé sur des collectivités, je dis entre guillemets, encore plus petites locales. Je pense les intercommunalités. Donc, certaines intercommunalités, c'est très tendance sur le paysage français. On va rassembler 3-4 communes. Elles auront des moyens un peu plus conséquents pour pouvoir entre guillemets, proposer de la culture aux habitants. Et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, depuis, on va dire, 4-5 ans, il y avait eu un gros développement. Je parle surtout en zone en milieu rural. Et aujourd'hui, on revient complètement en arrière. C'est que les intercommunalités n'ont plus les moyens, puisque des engagements de l'État sur d'autres aspects qui n'affectent pas directement la culture, mais d'autres aspects. Et on tranche sur quoi en premier point? La culture. Et pas la communication. Tiens, c'est bizarre pourtant. Parce que sur les festivals, quand il y a aussi des problèmes d'argent, on coupe sur la communication. Mais dans les collectivités, on va surtout miser sur la communication. On fait beaucoup de choses, mais bizarrement, ça fait pas double effet sur la culture. Donc voilà.
Hélène Rimbaud, Philippe Piau, une réaction sur cette coupe dans le budget de la culture? Comment ça vous impacte au quotidien dans vos métiers?
Ça impacte beaucoup quand on fait partie d'une compagnie de théâtre, par exemple, qui propose ses spectacles dans les différentes villes qu'il peut y avoir dans la région ou en France. Parce qu'il y a des festivals qui ont réduit la voilure, voire certains festivals qui ont mis en sommeil en attendant des jours meilleurs. Donc ça compte beaucoup. Il y a des programmations qui sont réduites aussi en disant nos abonnés, on va leur proposer moins de choix. C'est un paradoxe qui est difficile à décrypter. C'est pour ça d'autant plus intéressant d'avoir ça après la chronique écho que vous avez faite, parce que c'est éminemment culturel, mais on est au cœur d'un truc économico-culturel qui est assez bizarre. C'est-à-dire qu'à la fois, effectivement, tout ce qui est culturel est éminemment important, a pris une place incroyable, y compris dans l'économie. Les plus grands groupes mondiaux financiers sont plus des groupes propriétaires d'usines, de constructeurs de voitures, comme ça. C'est des gens qui sont dans la communication et la culture. Donc c'est des gens comme Disney, comme Sony, etc., au sens large du terme, hein. Mais c'est pas juste les arts vivants. Donc c'est eux qui sont. Donc on va pas supprimer la culture. C'est pour ça qu'en France, on dit supprimer l'intermittence du spectacle. Quand on sait le nombre d'intermittents qui sont employés par les sociétés audiovisuelles, ça va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique. Ça, c'est sûr, ça déstabiliserait trop, l'industrie culturelle qui est extrêmement forte et de plus en plus puissante. Donc, mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'effectivement, les subventions, elles diminuent. Alors, du coup, ça veut dire quel choix on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va avoir du Facebook culturel? est-ce qu'on aura non mais est-ce qu'on aura plus que ça, c'est-à-dire en gros on va avoir quelque chose qui va être descendant parce que c'est ça qui marche et puis qui va être fléché avec les entreprises qui passent des contrats avec le fournisseur d'accès à la culture, vous voyez ce que je veux dire, et donc les pubs, si vous avez je sais pas moi une cinquantaine d'années, vous allez avoir les trucs anti-rides, si vous êtes une femme vous allez avoir les trucs biscotto pour les enfin c'est ça, c'est terrible, donc mais on peut très bien avoir le même processus économique qui se retrouve dans tous les milieux culturels et artistiques, donc qu'est-ce qu'on veut, voilà, c'est pour ça que on est aussi un peu mordant sur cette histoire de soutien public, parce que il faut pouvoir avoir le choix. Ça ne veut pas dire arrêter le divertissement, arrêter toutes ces choses-là, mais il faut avoir le choix. Or, si ça prend la place, comme ça prend la place en ce moment économiquement, on ne pourra plus avoir le choix. Parce qu'on ne va pas, comme disait tout à l'heure dans la petite interview que vous avez passée la personne, on ne pourra plus monter certains types de spectacles, parce que c'est trop recherche, ou c'est trop répertoire, on a besoin d'un truc qui réponde à la clientèle actuelle, vous voyez ce que je veux dire ?
Hélène Rimbaud ?
Je ne sais pas si la culture ou l'art doivent être rentables. Je ne sais pas si c'est intéressant qu'il y ait des retombées, effectivement, comme dans l'organisation d'un festival, que ça puisse rapporter à la région, aux hôtels, au commerce, etc. C'est une bonne chose. Mais en soi, comment pourrait-on rendre la chose artistique rentable ? Je vois pas bien comment. Ça coûte de l'argent. Et il est très important que l'État s'y engage, peut-être pour une indépendance artistique, parce que autant si les entreprises privées se mettent à financer la culture et l'art, c'est une très belle chose, mais il faut pouvoir garder une indépendance, et je pense que c'est aussi l'État qui peut donner cette indépendance aux artistes. Donc, elle peut être rentable dans les retombées annexes, je dirais. Mais en soi, un spectacle, ça coûte de l'argent. La production d'un spectacle, ça coûte de l'argent. Et c'est pas 15 euros la place de spectacle. Ça serait 150, 200, 250 euros la place s'il n'y avait pas de financement public.
Je vois l'heure passer. On va devoir conclure cette discussion autour des problématiques de la culture. Quelle est la suite du mouvement Je marche pour la culture dans les prochains jours?
Ouais, juste un truc comme j'ai envie de dire. En fait, non mais tout à l'heure, ce qui était peut-être important à dire, je sais pas si c'est une forme de conclusion, mais faut faire la différence entre ce qui est une dépense et ce qui est un investissement. Et là, investir dans l'indépendance du monde artistique et culturel, c'est éminemment important. C'est pas juste un coût, quoi. C'est-à-dire, on n'est pas en train de quoi on parle. Et quand on parle de l'assurance chômage et donc des intermittents du spectacle, comme on parlait au début d'émission, pour l'instant, on nous parle de qu'est-ce que ça coûte, mais qu'est-ce que ça rapporte dans tous les sens du terme, dans toutes les richesses, et pas seulement que financières que ça amène. Voilà. Après, les suites du mouvement, en fait, on va être, pour l'instant, on est à très court terme sur ce 20 mars, qui est le prochain jour des négociations, où là, on devrait peut-être savoir à quelle sauce nous et les autres on sera mangé, puisqu'il ne s'agit pas de jouer juste corporatiste. Hein. Il est bien question de se dire comment tout ça va être monnayé. Quoi.
Je crois que les temps sont vraiment graves. En 2003, on a déjà perdu beaucoup. Là, s'il ne s'agit que de re-signer la même chose, c'est très très grave, parce qu'on a bien vu en 10 ans que la précarité s'est agrandie de façon phénoménale en ce qui concerne nos métiers. Donc si ça se signe le 20 mars, le mouvement va se durcir et nous appellerons syndicats, tous les syndicats nous appelleront à la grève.
Ronan Pichavant, un mot pour conclure?
Continuons le combat.
Continuons le combat.
Et soutenons le spectacle vivant, les arts vivants, soutenons.
Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. Tout de suite, on va écouter Michael Kiwanuka, You've Got Nothing to Lose.
The trouble that keeps, nothing will turn around, nothing will move, nothing.
Ils sont encore là cette semaine et oui, on ne se débarrasse pas d'eux comme ça. Ils vont encore nous parler de sport parce qu'on adore ça. Au programme du jour, un peu de ballon ovale, de ballon rond, de palais et même des gros ballons qui rebondissent. Oui, le basket quoi. Mais on commence avec un sport d'homme de vrai, un homme où la mêlée est un art et où les hommes sont tout simplement des dieux du stade.
Ok, Tiffaine. Bref, vous l'avez sans doute reconnu, Tiffaine parlait de rugby. La France affrontait l'Irlande samedi soir et au vu des résultats du match précédent des Irlandais, qui avait battu l'Italie 46-7, le match ne s'annonçait pas, mais alors pas du tout gagné d'avance.
Et franchement, on s'attendait à pire. Vous le savez sûrement, on ne vous apprend rien, le 15 de France a perdu face à l'Irlande. Mais une défaite tout de même honorable, puisque les Français n'ont perdu que de 2 petits points, 20 pour la France, 22 pour les Irlandais.
Des Français qui se sont quand même bien battus, jusqu'au bout, puisqu'à quelques minutes de la fin, ils ont marqué un essai. Et au rugby, la règle est simple et assez claire, la passe vers l'avant est interdite.
Et grâce à l'arbitrage vidéo, on a pu voir que la France, sur ce coup, n'avait pas assuré. Donc un essai qui nous a très justement été refusé. Et voilà la défaite. Comme quoi, l'arbitrage vidéo, ça sert. Parlez-en à Lyon qui a perdu 3-2 sur 3 occasions de hors-jeu hier.
Oui, bon, là on s'égare un peu. Tout ça pour dire que la France est 4e du tournoi.
4e sur 6 parce que c'est le tournoi des 6 nations.
Tu m'étonnes d'émission en émission, Tiffaine. Bon, en tout cas, ils n'ont plus qu'à se préparer pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans 18 mois. Ouais, ça leur laisse du temps.
Et on leur souhaite bon courage. Allez, on passe au ballon rond avec le SCO qui a eu une dure semaine apparemment.
Plutôt oui, alors pour ceux qui ne sont pas à la page, notre équipe de foot jouait lundi à Tours pour la 27e journée et ils ont joué samedi à domicile contre Créteil pour la 28e journée. Et on peut dire que la semaine commençait plutôt mal.
Oui, lundi le SCO a essuyé sa première défaite en 11 matchs contre le 8e du classement. Une défaite sans but pour le SCO qui en a encaissé 2. 2-0, certains parleraient d'une lourde défaite, d'autres d'un passage à vide. Seulement voilà, un passage à vide, ça ne dure pas.
Et quand on voit le match qui a suivi...
C'était contre Créteil, c'est ça?
Oui, et à la mi-temps, le score n'était pas très glorieux. Comme contre Tours, le SCO perdait 2-0. Et sans grande conviction, si je puis dire, le SCO était là sans y être, il jouait sans jouer. Mais le résultat, lui, était bien catastrophique.
Mais Tiffaine, comme tu le sais, on ne vend pas la peau du SCO avant de l'avoir tué. Après la mi-temps, et surtout après une causerie de vestiaire qui a dû être mouvementée, l'équipe de Stéphane Moulin a montré un tout autre visage.
Et la réaction ne s'est pas trop fait attendre. À la 51e minute, le SCO obtient un corner qui est malheureusement dévié par le défenseur adverse, mais c'était sans compter sur Eudeline qui reprend de voler le ballon 2-1.
La deuxième réaction a été plus tardive. Les supporters du stade Jean-Bouin ont attendu jusqu'à la 92e minute pour obtenir le but du match nul. Et c'est Jérémy Blayac qui offre le but de l'égalisation. Une erreur du gardien qui sort de son but beaucoup trop tôt.
2-2, c'est le résultat de ce match contre Créteil. Le SCO reste 3e avec 46 points derrière Lens, 2e et Metz 1er.
La semaine s'annonce assez longue pour les joueurs du SCO puisqu'ils joueront demain contre Brest. Oui, vous savez, le match doublement reporté. Et vendredi contre Niort.
Nos Ducs d'Angers font face aux Dragons de Rouen en demi-finale du championnat de France de hockey sur glace. 4 matchs ont déjà été disputés dans cette série qui, je vous le rappelle, se joue au meilleur des 7 rencontres. Alors, Julien, dis-nous ce qu'il en est.
C'est l'affiche dont tout le monde rêvait en hockey. Angers-Rouen, c'est un peu le classique du championnat comme peut l'être, toute proportion gardée, un PSG-OM en football. Petit retour en arrière. Mardi dernier, les Ducs avaient rendez-vous sur la glace des Dragons pour la première rencontre des demi-finales. Victoire des joueurs de Simon Lacroix sur le score de 2-0. Cette première rencontre a été marquée par la performance titanesque de notre gardien Florian Hardy.
Il leur a refait le coup de la finale de Coupe de France. Hardy a été véritablement infranchissable en effectuant pas moins de 46 arrêts. Les Ducs ont eux été réalistes en marquant 2 fois par l'intermédiaire de Fortier et Grodeur. Angers mène alors la série 1-0.
Le lendemain, on prend les mêmes et on recommence. Tactique inchangée pour nos Angevins. Solidarité en défense, un héros dans les cages et du réalisme en attaque.
Malgré l'ouverture du score des Normands, nos joueurs ont su se remobiliser pour finalement l'emporter 2-1 en marquant 2 fois en 2 minutes par Crowder et Albert. Florian Hardy a encore été très fort en stoppant 2 tirs de pénalité, l'équivalent du tir au but au foot.
Retour au Hara vendredi pour le 3e match de la série. Une réaction des Dragons était attendue après avoir perdu 2 fois de suite chez eux.
Oui, mais voilà, au terme d'un match très disputé, ce sont une nouvelle fois nos Ducs qui l'emportent. Sur le score de 3-2, nous sommes alors à 60 minutes d'une qualification pour la finale du championnat de France.
J'espère que vous n'êtes pas trop perdus. Angers mène 3-0 et dispose encore d'un match au Hara pour éliminer les Dragons de Rouen.
On le sait, Rouen, champion de France en titre, est une grande équipe. On avait donc du mal à croire qu'il ne se réveillerait jamais. Samedi, les Dragons de Rouen se sont véritablement révoltés en l'emportant 4-0.
Lourde défaite qui ne doit pas faire perdre confiance au groupe. Prochaine prochaine chance de qualification pour la finale du championnat de France demain soir à Rouen.
Après cette longue page hockey sur glace, parlons maintenant des Hawks d'Angers.
Pas de rencontre au programme pour les Hawks ce week-end. Prochain rendez-vous pour eux, samedi 29 mars contre les Jokers de Bagne.
Actualité basket en commençant par l'ABC qui jouait vendredi contre La Rochelle.
Défaite à domicile pour les Angevins qui s'inclinent 66-64. C'est la première défaite de la saison à domicile pour l'ABC. Au classement, on est toujours second, mais Monaco s'éloigne puisqu'ils ont désormais 3 points d'avance sur nous.
Les filles de l'UFAB avaient-elles rendez-vous avec Nantes-Rézé pour le derby des Pays de la Loire ? Défaite 64-70 pour les filles de David Girandière. Prochain match face à Mondeville, concurrent direct pour le maintien. Victoire impérative donc.
Allez, c'est tout pour ce week-end.
C'est déjà pas mal. Merci à vous deux, les sportifs. Avant de vous quitter, voilà l'agenda de votre soirée angevine présentée par Marin. Bienvenue dans le sous-marin, Marin.
Merci.
Notre stagiaire de la semaine, qu'est-ce qu'on fait ce soir ?
Alors, c'est aujourd'hui le début du festival Les Trois Coups qui se passe à l'amphithéâtre Bazin de Luco. Le festival a commencé à 19h30 avec un pot d'ouverture et une intervention de Are You Rock, qui est une association d'étudiants musiciens. Suivi de la création d'Emma Clément nommée Second Rôle, la programmation est à retrouver sur le site www.letroiscoups.fr. Aujourd'hui, nous sommes aussi le 17 mars, jour de la Saint-Patrick, qui célèbre le créateur du christianisme en Irlande. À l'étranger, cette fête est surtout perçue comme la célébration de ce que fait l'Irlande, le verre, les trèfles et la bière. Le peuple welsh célèbre donc la Saint-Patrick avec la bande à Rio, une fanfare angevine. Ça commence à 20h30 et l'entrée est gratuite. À 20h aura lieu une conférence sur le jazz animée par Pierrick Menouot, nommée « Une histoire du jazz au fil de Summertime ». Cette conférence aura lieu à l'espace culturel de l'Université d'Angers. A noter aussi une conférence sur le christianisme par David Amidovic, professeur spécialisé dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. C'est à l'Institut municipal et l'entrée est libre, tout comme l'autre conférence. Et au 400 coups, à 20h15, se déroulera une ciné-rencontre sur le film Happiness Therapy, réalisé par David O. Russell, avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence. Il faudra compter de 4€ à 7,60€.
Merci Marin pour ces bons plans pour la soirée. Voilà, il est l'heure de débrancher les hydrophones. Vous pouvez réécouter cette émission sur le www.radiocampusangers.com ou en rediffusion demain dès 13h sur le 103FM. Tout de suite à 20h, vous retrouvez De Lauréane, l'émission Histoire de Radio Campus Angers. Et à 21h, vous retrouvez Misty, l'émission de jazz. Salut Denis.
Bonsoir Tiffaine.
Bon alors qu'est-ce qu'on écoute à 21h ?
Eh bien ce soir je vais vous parler d'Alban Darche, qui est un saxophoniste français qu'on a pu entendre il y a quelques semaines parce qu'il est passé au T-Rock Coco. Voilà, donc je voulais revenir un petit peu sur cet événement ainsi que parler de son œuvre qui est extrêmement complète.
Merci Denis, donc c'est à 21h sur le 103FM. On vous laisse avec la bulle sonore, un extrait de l'émission de décortiquage musical du jeudi soir sur le 103, IRM. L'équipe vous livre chaque semaine le décortiquage entre autres d'une chanson pourrie géniale. Cette semaine, Bérénice nous fait découvrir Pon 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 de Kiari Pamiu Pamiu, une japonaise, on n'est pas sûr de lui dire merci. Passez une très bonne soirée sur Radio Campus Angers, on se retrouve demain à 19h. Allez, bisous.
Bon, et avec ma petite chanson pour Hygiène, on va retrouver le sourire.
Oui.
Avec le pon 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 de la chanteuse japonaise Kiryu Pamiu Pamiu. Bon, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, hein, je ne pense pas. Bref. Voilà, donc ce pon pon pon, bon, c'est complètement, enfin, totalement débile. Ça a des sonorités enfantines, super répétitives. Et la voix de la chanteuse, donc Kiryu Pamiu Pamiu, là, c'est franchement mais hyper niais, mais vraiment niais. On a peu de paroles et beaucoup d'onomatopées du style pon-pon ou wé-wé. Hein. C'est hyper drôle en plus parce que sur YouTube, il y a une vidéo où on voit des enfants qui ont entre 7 et 13 ans, des enfants américains, et en fait, on leur demande de réagir face à cette vidéo, face au clip et face à la chanson. Et ils sont tous scandalisés par ce niveau de pourritude. Pourtant, il y en a, ils ont 7 ans. Alors, je cite, il y a une fille de 13 ans qui dit... Celui qui a fait cette chanson devait être sous drogue. Une petite fille de 13 ans, hein, avec des petites nattes et tout.
Elle est déjà bien avancée dans l'âge. Je ne connais pas ses parents, mais.
De 11 ans, quant à lui, qui dit que cette chanson est un mélange entre Katy Perry, Lady Gaga et toutes les autres chanteuses archi nulles. Et même les plus jeunes enfants de 6 ans supplient le caméraman de pouvoir regarder autre chose que ça.
Et tu veux nous passer ça, là?
Ouais!
Tu veux nous faire souffrir.
C'est exactement ça. Et bon, alors, je trouve que ce qu'il faut mais vraiment pas louper, c'est le clip de cette chanson. Même le clip de toutes les chansons de cette Kiari Pamiu Pamiu. Parce que...
Elle en a beaucoup. Enfin,
ah ouais, c'est une sacrée star au Japon. Hein. Et ils sont toujours entre le psychédélique, le monde enfantin, l'imaginaire et le ultra méga kitsch. Et c'est toujours, mais complètement barré. C'est limite, ça te met mal
à chaque
l'aise.
Fois. Hein. Genre, enfin, les pourries géniales, j'ai envie de dire, ça vient surtout de.
Ah ouais, mais celle-là, elle bat tous les records. C'est vraiment pire que.
Soit assez fort. Que la, nous font rire.
Que la Brigitte Bardot avec ses baguettes. Hein. Ouais. Celle-là, c'est pire. Hein. Donc c'est maintenant, parti. Je vais vous laisser écouter Pon Pon Pon. Et si ça vous casse pas trop les oreilles, on va essayer de l'écouter jusqu'au bout.
Non, non.
Donc c'est parti.
C'est parti.
We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.